Voilà, on y est presque et aujourd'hui on a du mal à s'imaginer à quoi va ressembler l'Amérique au lendemain du 3 novembre. Il y a encore beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur cette élection qui sera sans aucun doute un tournant dans l'histoire du pays. Nous sommes réunis en plein cœur de Washington dans le quartier chinois Chinatown devant un immense stade Capital One Arena, bien connu des amateurs de concerts ou de sport. Dans un autre style, j'y ai vu Michelle Obama présenter ses mémoires.
Moi j'ai été voir U2 en concert.
Bon, ça peut paraître un peu cliché, mais j'aurais voulu aller y voir Céline Dion. Mais le spectacle a été annulé en raison de la pandémie.
Le Capital One Arena, c'est aussi quand même surtout la salle des Wizards, c'est pour vrai, le basketball, la NBA.
Et il fut une époque où j'allais voir moi les Caps, vous savez l'équipe de hockey de Washington qui a gagné en fait la Coupe Stanley en 2018.
Alors c'est la première fois que ce stade est utilisé comme bureau de vote parce que en raison de la pandémie, eh bien justement, il n'y a plus tous ces événements. Aujourd'hui, des centaines d'Américains s'y rendent pour voter car le vote anticipé a débuté ce mardi dans la capitale américaine. Alors ici, il n'y aura pas de surprise puisque le district de Columbia vote en faveur du candidat démocrate depuis 1964. Hillary Clinton avait reçu plus de 90% des suffrages en 2016.
Et je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemble en ce moment le centre-ville de Washington.
Oui, ça nous rappelle la période des manifestations Black Lives Matter.
Parce que toutes les vitrines sont barricadées avec des planches de bois dans la crainte d'éventuelles manifestations, j'imagine.
Alors à mes côtés à Washington, il y a
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Grégory Philips, France Info.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Et Sonia Dridi pour la RTBF. Dernière ligne droite d'une campagne hors norme, c'est l'épisode 27 de Washington DC. Merci d'être avec nous.
It would be very, very proper and very nice if a winner were declared on November 3rd instead of counting ballots for 2 weeks, which is totally inappropriate, and I don't believe that that's by our laws. I don't believe that.
This is not an ordinary election.
Washington, D.C.
On vous avait déjà parlé du vote des seniors et des minorités dans des épisodes précédents. Cette fois, nous avons décidé de faire un zoom sur deux autres électorats clés dans cette élection. Tout d'abord, le vote des jeunes. Lors de l'élection de 2016, la participation des 18-29 ans était d'environ 46% seulement, contre près de 71% chez les 65 ans et plus. L'enjeu pour les deux partis, c'est de motiver les jeunes à aller voter alors que les deux candidats ont plus de 70 ans. Et c'est notamment important pour les démocrates, hein, puisque les milliers et la génération Z votent beaucoup plus à gauche selon les différentes études. Alors toi Raphaël, tu as été dans le Michigan et tu as rencontré des jeunes très mobilisés.
Oui, un peu plus tôt dans la campagne, je me suis arrêté à Ann Arbor. Vous savez, c'est une ville universitaire dans le Michigan. C'est pas tous les jeunes qui étaient motivés il y a 4 ans, par contre, dans cet État. 36-37% de taux de participation chez les plus jeunes électeurs environ. Et ce que me disait Rashida Kumar, qui a 19 ans, qui tente de mobiliser les jeunes de son entourage, c'est que les électeurs, les moins âgés, ne se reconnaissent pas nécessairement dans les deux partis en ce moment.
You can see that, like, because we don't vote, politicians are not going to be trying to appeal to younger people's demands.
Elle dit que comme les jeunes ne votent pas, les politiciens ne leur tendent pas nécessairement la main et ça se voit entre autres selon elle dans le programme des partis politiques, notamment sur la question de la lutte contre les changements climatiques. Mais dans son état, les choses sont peut-être en train de changer. 11 jours avant le vote cette année, il y avait 170 000 électeurs de moins de 30 ans qui avaient voté dans le Michigan. Imaginez, à pareille date en 2016, c'était 15 000 jeunes électeurs environ.
Alors toi, Raphaël Grand, tu nous donnes des nouvelles de jeunes de Géorgie.
Oui, alors grosse mobilisation des jeunes, on l'a dit, mais aussi dans des états clés comme le Texas, la Floride et effectivement la Géorgie. Mon collègue Jordan Davis, il est allé rencontrer dans la banlieue d'Atlanta, Marky. Il a tout juste 30 ans et il venait de voter pour la première fois.
This is my first time voting, and I'm voting because Trump...
Marky, qui explique qu'il veut du changement, une vision pour ce pays, même si sa voix, elle ne représente qu'un seul petit vote, il a décidé cette année d'aller voter parce qu'il faut que ça change. Ce pays devient fou, c'est ce qu'il dit. Il évoque les liens entre Trump et les suprémacistes blancs. Marky, c'est un jeune Afro-Américain qui veut du changement pour son futur, pour ses enfants. Il veut retrouver les États-Unis qu'il connaissait.
Et certains craignent aussi que le parcours du combattant administratif pour voter dissuade les plus jeunes et pour motiver les troupes, le camp démocrate peut compter sur l'ancien président Barack Obama.
Oui, c'est vrai, c'est important. L'ancien président est vraiment rentré en campagne pour soutenir Joe Biden. On l'a vu à Philadelphie, on l'a vu en Floride et puis on va les voir tous les deux ensemble ce samedi dans le Michigan, tous les deux sur la même scène. Donc évidemment, Obama ça parle aux jeunes. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la proportion des votes chez les 18-29 ans en 2008 pour Obama?
Pas tout à fait, mais c'était historique.
C'était beaucoup, ouais.
C'était énorme. 66% des jeunes avaient voté pour lui à l'époque. À titre de comparaison, 55% pour Hillary Clinton en 2016. Donc, quand Obama vient dans la campagne de Biden, évidemment, c'est un message qui porte, et notamment l'appel à la mobilisation.
The answer for young people when I talk to them is not that voting makes everything.
Et l'ancien président dit aux jeunes, ce n'est pas que le vote va tout rendre parfait, mais ça va améliorer les choses. Vous aurez des élus qui vont s'occuper de vous, vous comprendre, votre voix sera entendue à travers eux. Franchement, ça vaut le coup de passer 15 minutes pour aller voter.
15 minutes, c'est assez optimiste. Hein.
Ça peut davantage en Géorgie. Ouais, ça peut davantage être quelques heures à l'occasion.
À Washington, c'est rapide en tout cas. Alors Anne, toi tu reviens de Caroline du Nord.
Oui, là-bas aussi, grosse mobilisation. Plus de 200 000 jeunes de moins de 30 ans ont déjà voté. C'est 8 fois plus qu'il y a 4 ans à la même époque. Alors moi, j'ai rencontré Yvonne Brannon. Elle n'est pas tout à fait jeune, hein. Elle a 70 ans, mais elle passe ses journées avec des jeunes pour mobiliser les électeurs et elle parie sur le succès de cette alliance entre sa génération et celle de ses petits-enfants pour faire gagner Joe Biden.
I do believe that our older people and our younger people are working together.
Je crois que nos jeunes et nos vieux travaillent ensemble pour sauver la classe moyenne, dit-elle. Elle parle des jeunes qui rejettent la vulgarité, qui rejettent le racisme, qui ont un cœur grand ouvert. Et elle ajoute, ma génération, eh bien, nos parents ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait à quel point la démocratie est fragile. Et elle conclut, les jeunes savent ce qu'ils veulent et nous, nous savons ce que nous pouvons perdre.
They know what they want and we know what we can lose.
À propos du vote des jeunes, il faut aussi quand même parler très rapidement de la mobilisation des artistes, des pop stars, des rock stars. Je vais en citer qu'une seule, Taylor Swift. Tu vois qui c'est, jeune chanteuse qui vend énormément de disques aux États-Unis. Elle vient du monde de la country music. Elle s'est politisée ces dernières années et elle est très anti-Trump. Et aujourd'hui, elle appelle à voter Biden. Il faut noter que Taylor Swift, c'est 140 millions de personnes qui la suivent sur Instagram et 87 millions sur Twitter. Elle a exactement le même nombre d'abonnés
que notre compte Twitter.
Non, que Donald Trump. C'est dire que quand Taylor Swift dit voter Biden, évidemment, ça a un écho important dans ce pays.
Et c'est très important aussi parce qu'elle est très populaire auprès des conservateurs, notamment des jeunes conservateurs. Alors, on va également parler du vote des femmes. Elles sont très convoitées dans cette élection. L'électorat féminin blanc avait voté pour Trump à 53% en 2016 et avait contribué à sa victoire face à Hillary Clinton. On parle beaucoup ces derniers temps des maires de banlieues américaines qui ont voté pour Trump il y a 4 ans et qui sont aujourd'hui déçus. Donald Trump s'adresse même désormais à elles régulièrement dans ses meetings électoraux.
Oui, le message ne pourrait pas être plus clair. On l'a entendu à l'occasion, le président dire à ces femmes « Aimez-moi, s'il vous plaît, femmes de banlieue ». Bon, ça c'est sur la forme. Sur le fond, le président brandit entre autres la menace que si les démocrates sont élus, ils pourraient construire des logements sociaux dans leur banlieue. Ça a une connotation négative, selon le président. Et il a aussi parlé d'économie un peu plus tôt cette semaine, en parlant à ces femmes qu'il qualifie de « femmes au foyer » et en promettant qu'on allait redonner des emplois à leur mari.
Your husbands, they want to get back to work, right? They want to get back to work. We're getting your husbands back to work and everybody wants it.
Donc voilà, on verra quel écho aura ce message du président auprès de ces femmes. Il faut dire qu'on n'est plus dans les années 50 quand même. Les femmes dans les banlieues américaines, elles travaillent et on constate aussi dans les sondages et qu'elles appuient de moins en moins le président Trump.
Alors, sur les sondages, moi, j'aime pas trop les regarder à quelques jours de l'élection, mais il y a un sondage intéressant en ce qui concerne les femmes, un sondage Washington Post ABC qui nous dit que dans deux états clés, le Wisconsin et le Michigan, Joe Biden, dans le Wisconsin, il a 30 points d'avance sur Trump et 24 points dans le Michigan. C'est énorme.
Et ce n'est pas un sondage unique, ça fait écho aussi à un sondage qui a été réalisé la semaine dernière par Fox News qui nous montrait des proportions similaires dans ces États, mais aussi dans d'autres États comme l'Ohio qui sera très important.
Mais toutefois, de nombreuses femmes républicaines, nous avons parlé à beaucoup d'entre elles vont avoir du mal à voter pour un démocrate.
Oui, et quand on se balade dans certains États républicains, moi j'aime bien parler par exemple du Texas où j'y étais il y a quelques temps, certaines électrices vous disent qu'elles n'aiment pas franchement la personnalité de Trump.
I think Trump needs his Twitter account taken away and sometimes he needs to just keep his mouth shut, but
Trump qui devrait arrêter avec Twitter, il devrait même parfois la fermer, m'explique Melissa. Melissa, elle a voté, elle revotera pour Trump parce que, bien, elle est républicaine et Trump est ce candidat républicain avec ses valeurs conservatrices. Ça va un peu au-delà du candidat pour elle. Et si Trump a perdu le cœur de beaucoup d'électrices, ça ne veut pas forcément dire qu'il a perdu leur voix dans les urnes.
Oui, moi aussi, en Caroline du Nord, j'ai rencontré pas mal de femmes républicaines qui vont voter Donald Trump, mais en se bouchant littéralement le nez. Et puis sur le fond, il y a, vous savez, le message du président quand il dit « They're gonna destroy your suburbs ».
Ils vont détruire vos banlieues.
Voilà, on a l'impression qu'il dépeint des hordes de jeunes noirs ou de antifa qui vont déferler sur ces banlieues coquettes. Bon, bah, les femmes des banlieues n'y croient pas forcément. D'abord parce qu'elles savent qu'elles vivent dans un environnement préservé, mais aussi parce qu'elles ne sont pas toutes blanches et elles n'ont pas forcément peur du mouvement Black Lives Matter. C'est ce que m'a expliqué Cassandra, une afro-américaine, militante démocrate de la banlieue de Raleigh.
I think we tend to think suburbs and we just think white women. And I think that's what Trump is forgetting. There are black women.
Donc elle dit, Trump se trompe quand il parle de banlieue résidentielle en pensant femmes blanches, il y a des noirs, il y a des asiatiques. Et ce qu'il a oublié, c'est que quand on a vu George Floyd pleurer sous les genoux de ce policier.
Oui, même appeler sa mère au secours. Hein.
Eh bien, ça a brisé le cœur de toutes les femmes, hein, qu'elles soient républicaines ou démocrates. Et quand Donald Trump demande aux femmes des banlieues de l'aimer, il doit se préoccuper des sujets qui nous tiennent à cœur. Et les revendications du mouvement Black Lives Matter en font partie.
Oui, et les femmes noires et issues des minorités en général devraient être particulièrement mobilisées cette année. Dans les sondages, Joe Biden a pour l'instant environ 25 points d'avance sur Donald Trump auprès de l'électorat féminin.
Washington, D.C.
Nous sommes toujours devant le Capital One Arena. Alors, pour la petite histoire, normalement, on doit voter dans son quartier. Mais ici, tous les habitants du district de Columbia peuvent venir voter. C'est une manière pour la capitale, qui est à majorité démocrate, de faciliter le vote.
Et depuis le début de l'épisode, on voit des candidats, certains bénévoles aussi, venir autour de ce centre pour faire campagne. Beaucoup d'affiches de candidature locale, très peu d'affiches de Biden, Harris ou de Trump. Et la raison, elle est claire, c'est parce que Washington, c'est démocrate en très, très grande proportion. Donc, on se concentre vraiment sur les petites élections locales.
À quelques jours de l'élection, dans quel état d'esprit sont les candidats? Grégory, tout d'abord, tu vas nous donner des nouvelles de Donald Trump.
Bon, bah, il est en forme. Hein. Le Covid, l'hôpital, tout ça, c'est oublié. Il fait en ce moment à peu près 3 meetings par jour. L'équipe de campagne pense même accélérer encore le rythme dans les dernières heures et envisage jusqu'à 5 meetings par jour.
Ce qui est assez dingue.
C'est un rythme totalement dingue. Trump, on le sait, est une bête de scène dès lors qu'il est devant ses supporters. On l'avait déjà constaté en 2016, on le constate encore aujourd'hui. Il y a néanmoins une différence qui, moi, personnellement, m'étonne. C'est que ces dernières heures, ces derniers jours, le candidat républicain, devant ses supporters, devant ses soutiens, évoque la possibilité d'une défaite, comme ce jour-là, par exemple, à Allentown, en Pennsylvanie.
By the way, nice trucks.
Vous avez des jolis camions. Vous croyez que je peux en prendre un et me tirer d'ici? J'ai une belle vie, j'avais une super vie avant tout ça, et puis je me suis lancé dans ce boulot, comprenez, président des États-Unis. Oh, je me disais, ça doit être amusant, mais je suis content. Finalement, j'ai fait plus que n'importe quel autre président en 3 ans et demi de mandat. Vous voyez, un petit peu comme un au revoir avant même l'élection.
Et le président aussi, souvenez-vous, il y a quelques semaines, fait référence à la possibilité assez étonnante de quitter le pays en cas de défaite.
Oui. Quand, pas en camion.
Il va au Canada.
Ben, en tout cas, la frontière terrestre, elle est toujours fermée, malheureusement, pour M. Trump, c'est vrai, entre le Canada et les États-Unis. Mais donc, il y a ces déclarations sur une possible défaite. Et en même temps, le président dit assez régulièrement qu'il entrevoit une possible vague rouge à la Maison-Blanche, au Congrès. Au-delà des mots, il y a quand même des indices sur le terrain qui nous donnent une idée de la dynamique de la course, comme ces arrêts cette semaine du président dans le Maine, au Nebraska, où il y a de toutes petites voix au collège électoral qui sont en jeu, comme quoi on veut vraiment s'assurer d'avoir toutes les chances de notre côté dans le camp Trump.
Oui, on le sent très fébrile.
Et sur le fond, vu que toutes ces attaques contre Joe Biden n'ont pas vraiment pris, il agite beaucoup l'idée en ce moment qu'en fait, l'ex-vice-président va rapidement céder la place à sa colistière, qu'il tente de faire passer pour une dangereuse gauchiste.
That's right.
Il dit que les démocrates vont devoir faire jouer le 25e amendement, là, vous savez, celui qui prévoit le remplacement du président en cas d'incapacité. Oui. Et cette semaine, en meeting dans le Michigan, il a même évoqué un autre scénario. Trois semaines et Joe se fait tirer dessus et vas-y Kamala, t'es prête? Et elle ferait passer Bernie Sanders pour un conservateur sérieux, dit-il. Bon, alors, Joe's shot, faut le dire, c'est quand même un terme ambigu, ça peut être compris, Joe se fait tirer dessus ou alors Joe lâche l'affaire. En tout cas, on espère que ce ne sera pas pris au pied de la lettre par un de ses partisans.
En tout cas, ça a beaucoup choqué cette déclaration, le camp démocrate. Raphaël Grand, justement, tu nous donnes des nouvelles, toi, de Joe Biden.
Oui, alors, Joe Biden, toujours sur la retenue, on va dire.
Planqué.
Il prévoit quand même de sortir. Hein. Il y a des rassemblements politiques qui sont prévus ces prochains jours. Et il a fait une rapide sortie en Géorgie. Il est allé à Warm Springs, au sud d'Atlanta, vous connaissez?
Oui, c'est un lien avec Roosevelt.
Exactement, Warm Springs, c'est une petite ville avec des sources d'eau chaude thérapeutique. Et c'est là que le président Roosevelt, dans les années 20, allait soigner ses jambes. Il souffrait du virus de la polio. Roosevelt, figure respectée hein, dans les rangs démocrates, c'est assez symbolique. Hein.
Warm Springs is a good place to talk about hope and healing. Sir Franklin Roosevelt came, quote, to use the therapeutic waters.
Et Biden, dans son discours, s'est à nouveau profilé comme ce président rassembleur, unificateur, ce guérisseur de la nation, ce mantra qu'il a depuis le début de sa campagne, en fait.
But I'll govern as an American president to unite and to heal.
Oui, et puis il a aussi utilisé cet endroit parce que beaucoup d'observateurs déjà comparent la première candidature de Franklin Delano Roosevelt à celle de Joe Biden, puisque à l'époque, très peu soupçonnaient que Roosevelt allait à ce point changer le pays.
Et pour revenir aux activités de campagne, on peut quand même noter que le rythme est très différent dans les deux camps. Lundi, je pense, c'était Donald Trump qui était
en Pennsylvanie. Trois meetings.
Trois rassemblements. Joe Biden, lui, était chez lui dans le Delaware, il avait des activités, mais pas de sortie. Et finalement, en toute fin de journée, on saute dans la voiture quelques kilomètres plus loin. On s'arrête en Pennsylvanie, en banlieue de Philadelphie, pour tenir un événement qui n'était pas prévu et ainsi peut-être attirer un peu l'attention en fin de campagne.
Autour de nous, on voit des Américains de tous les âges et de toutes les origines.
Et on voit les gens sortir avec cet autocollant hein, collé sur leur pull ou leur t-shirt. I voted,
j'ai voté. Oui.
Ils l'affichent hein, très fièrement.
Ils sortent de ce stade transformé en bureau de vote pour donc les électeurs de Washington. Beaucoup sont stressés et appréhendent ce qu'il va se passer au lendemain du 3 novembre. Plusieurs scénarios sont possibles. On va commencer avec toi, Anne.
Avec le scénario qui fait rêver chaque camp, celui d'une large victoire, d'un raz-de-marée, landslide en anglais. Alors, bon.
Ça fait rêver parce que ce sera fini rapidement.
Voilà, et nous aussi, ça nous fait un peu rêver. Voilà. Alors, bon, les démocrates ont plus de chances de parvenir à réaliser ce scénario parce que si Joe Biden emporte, disons, la Floride et l'un des trois États-clés de la ceinture de rouille, le Michigan, le Wisconsin ou la Pennsylvanie, eh bien, ça suffira, en gros, à garantir la victoire aux démocrates. Pour parvenir au même résultat, Donald Trump doit remporter absolument le Texas et au moins 4 des 7 États-clés. C'est beaucoup plus compliqué pour le camp républicain.
Et moi, j'enchaîne avec le scénario serré, celui d'un vote qui va peut-être durer. Il va falloir compter, notamment l'incertitude de ce vote à cause des bulletins par correspondance. Écoutez, Scott, c'est un fermier du Wisconsin.
This mail-in ballot is what scares me.
Et Scott a justement peur de ce vote par correspondance qui peut être serré, peu importe quel camp gagne. Il y aura beaucoup de doutes, il me dit, et il risquerait sérieusement de se poser des questions. On se dit que la légitimité du scrutin est peut-être vraiment questionnée selon certains scénarios.
Et puis moi, Sonia, je peux te faire le scénario cauchemardesque. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de résultat, que ça dure des semaines et que comme en l'an 2000, en Floride, on recompte et on recompte. Souviens-toi, en 2000, c'est finalement la Cour suprême qui, le 12 décembre, donc plusieurs semaines après l'élection, avait annoncé la victoire de George Bush. Et encore, à l'époque, Al Gore n'avait pas saisi le Congrès. Il aurait pu aller plus loin pour continuer les démarches et montrer qu'il avait gagné. Donc ça, c'est vraiment le scénario du pire, c'est-à-dire mi-décembre, on n'a toujours pas de vainqueur de cette élection.
Et puis, on sait qu'aujourd'hui, la Cour suprême, en plus, penche à droite.
Évidemment, depuis la nomination d'Amy Coney Barrett, une Cour suprême avec 6 juges conservateurs et 3 juges progressistes.
Alors moi, je n'ai pas de scénario à vous proposer parce que mes collègues l'ont brillamment fait au cours des dernières minutes, mais je peux vous dire que peu importe ce qui se produira le soir des élections, le lendemain, peut-être dans les semaines qui vont suivre, il y a beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, à la fois chez les militants démocrates et républicains que j'ai rencontrés tout au long de la campagne à travers le pays. On va entendre Guillaume, qui va voter pour Joe Biden, et Alan, qui va voter pour Donald Trump.
Moi, j'ai une entreprise, j'ai des investissements à faire en ce moment, et je dois dire que c'est un peu effrayant de se dire que peut-être qu'au mois de décembre ou au mois de janvier, après les élections, Trump va refuser de quitter le gouvernement. Même s'il perd les deux chambres et la présidentielle, il trouvera une excuse. Et donc à partir de là, on va rentrer dans des zones qu'on ne connaît pas aux États-Unis.
Mais compte tenu de ce qu'on a vu cet été, j'attends à ce qu'il y ait encore des incendies et des problèmes des gens d'Antifa et autres.
Il y a quelque chose que j'entends aussi beaucoup de la part d'Américains inquiets. On aimerait peut-être déménager au Canada, mais c'est pas si évident d'immigrer au Canada.
Bon, et puis quand même, quoi qu'il en soit, le 20 janvier à midi, et ça c'est gravé dans le marbre, hein, puisque c'est dans la Constitution, marquera la fin du mandat du 45e président des États-Unis.
Il est désormais temps de prendre les questions des auditeurs. On en reçoit désormais régulièrement sur notre fil Twitter, Washington DC. Anne, justement, tu vas répondre à Méaline.
Alors, Méaline, elle demande si le clivage démocrate-républicain est indépassable pour les 2 ou 3 prochaines élections nationales. Alors, je rappelle d'abord que notre métier n'est pas de prévoir l'avenir.
Heureusement.
D'ailleurs, on a montré les limites de cet exercice.
C'est pas une boule de cristal que tu as là à côté de toi, Anne.
Bon, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que la fracture, les divisions sont telles qu'il semble impossible de les surmonter rapidement. Le discours de Joe Biden qui dit en substance qu'il va rassembler les Américains me semble être un vœu pieux. À mon avis, le fossé creusé entre les électeurs de chaque camp et donc entre eux, les deux partis risque de durer un petit moment.
Grégory, est-ce que tu peux répondre à la question de Safia qui demande à quoi ressemblent les bulletins de vote ? Est-ce que ce sont les noms des grands électeurs qui y figurent ou ceux des candidats ?
Alors, comme à chaque fois aux États-Unis, ça dépend des États. On vote soit avec des machines à vote, soit avec des bulletins. Sauf que si je compare par exemple avec ce qui se passe en France, c'est des bulletins qui font parfois 8, 9, 10 pages. Pourquoi ? Parce que certes, on vote pour les grands électeurs qui vont désigner le président, mais aussi pour des initiatives locales, des référendum.
Ah oui, t'as vu, il y a un panneau juste derrière toi. Votez oui à l'initiative 81, c'est pour la légalisation des champignons hallucinogènes.
Et puis aux États-Unis, on vote aussi parfois pour des juges, des shérifs.
Oui, aussi les gens qui sont dans les conseils d'administration des écoles. Donc il faut cocher toutes ces cases, ça prend un temps fou, c'est assez compliqué quand vous avez un document d'une dizaine de pages. Et puis l'autre partie de la question, c'est est-ce que ce sont les noms des candidats ou bien des grands électeurs ? Bah en fait, c'est quasiment toujours ceux des candidats. Les noms des grands électeurs n'apparaissent que dans quelques États vraiment peu nombreux. Et puis en fait, on s'en fiche un peu parce que peu importe leur identité, on sait pour qui ces grands électeurs voteront finalement après l'élection.
Et justement, en parlant des grands électeurs, Raphaël, il y a une question de Mélanie pour savoir est-ce qu'il y aurait un podcast qui expliquerait le système des grands électeurs ?
Question facile.
Alors, réponse oui. C'est un hors-série qui se trouve juste avant cet épisode, dans le flux de Washington DC, que vous retrouvez sur toutes les radios francophones publiques. Je ne vous donne pas le lien exact, mais ce sera facile à trouver.
Et Raphaël, exceptionnellement, tu as le droit de répondre à une deuxième question, puisque cette question qui vient de Jonathan est « Les relations Berne-Washington ont-elles été meilleures que sous Obama ?»
Oui, Berne, capitale de la Suisse. Alors effectivement, les diplomates suisses vous expliquent que pendant les années Trump, cette administration Trump, il y a eu des contacts intéressants et plus faciles, parce qu'en fait, dans les yeux des conservateurs, cette petite Suisse indépendante et neutre au milieu de l'Europe, elle est vue plutôt avec bienveillance. Puis vous savez peut-être aussi que la Suisse représente les intérêts américains en Iran, et quand il y a des libérations d'otages américains, la Suisse n'est jamais très loin.
Alors Raphaël, il y a une question d'Hervé pour savoir quel est notre retour sur l'inquiétude croissante sur un possible chaos post-électoral.
Bon, on a évidemment évoqué tous les scénarios possibles quant aux résultats. On sent qu'il y a une certaine inquiétude au sein de la population. Et on n'a pas allé très loin, on l'a dit plus tôt dans cet épisode, il y a ces vitrines de commerce qui ont été placardées à Washington. On anticipe peut-être des manifestations. Ce qu'il faudra surveiller aussi le soir des élections, eh bien, ce sont les mots qui seront utilisés par les deux candidats pour reconnaître ou non les résultats qui auront été annoncés.
Voilà, vous l'aurez compris, l'atmosphère est assez pesante aux États-Unis. Il y a beaucoup d'incertitudes et les deux camps sont à cran. Joe Biden est toujours en tête dans les sondages nationaux, mais l'élection va se jouer dans les États clés. Il y a donc un vrai suspense. Les experts le disent et le répètent, cette élection est un tournant dans l'histoire des États-Unis. C'est bientôt la fin de ce marathon, de cette campagne hors norme, palpitante, étonnante. On vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour le débrief de ce vote historique. On ne vous garantit pas d'avoir les résultats, mais on vous garantit des analyses fraîches.
Et on essaiera.
Quand même un peu voilà. Fatigué.
Même si nous, on ne sera pas forcément frais. Et puis, l'aventure Washington DC va exceptionnellement se décliner à la télévision. Nous serons tous les cinq réunis sur le plateau de France Info, Radio et Télé le 4 novembre.
Il pour prévoit les... des maquilleurs
Sans doute. En tout cas, c'est chic, ce petit podcast qu'on a imaginé tous ensemble il y a un an, qui se retrouve maintenant à la télévision française. Ça fait plaisir.
Ça va nous voilà. Changer du banc au milieu de la rue, à côté d'une poubelle ou un arrêt de bus.
Ce sera pour l'émission Les Informés de 20h à 21h, heure de France, Belgique, Suisse et au Canada, ça sera
à la même heure que sur la côte est américaine, donc 14h à 15h, heure de l'Est, et puis ça dépend après dans quelle région du Canada on se retrouve, c'est un vaste pays.
Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Sonia Dridi, RTBF.
Réalisé par
Alexandre Davoine.